La séance est ouverte à 19h45. Je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Ah, Nico, oui.
Affaires municipales.
Oui.
Levée de la ZIS.
Ouais. Levée de la ZIS. C'est de la RAM aussi.
Levée
d'intervention. C'est
de la RAM.
OK, c'est bon. Donc, le point en 17, affaires municipales, levée de la ZIS. D'autres sujets à mettre à l'ordre du jour, à inscrire à l'ordre du jour? Sinon, je recevrai une proposition. Oui, Bruno?
Non, je vais proposer.
Bruno propose, appuyé de Richard. BBRR. Mot de la préfète. Alors, ça va être rapide ce soir sur un retour sur la mission en France où on a vu des gens qui ont peut-être un territoire avec moins d'atouts que ce qu'on a chez nous, mais avec une détermination qui est exemplaire par rapport à ces territoires-là. Ils ont confiance dans leur territoire, ils ont confiance dans leur capacité, dans les ressources qui sont à leur disposition, et ils font des choses de façon différente. J'ai mentionné quand on a fait la dernière rencontre, la rencontre synthèse de notre voyage, qu'on a développé non seulement un réseau de collègues, mais aussi des amitiés et des réseaux de personnes dans ce voyage-là. On a appris beaucoup. On a aussi partagé beaucoup de nos expériences ici sur le territoire. Et je pense que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière collaboration qu'on pourra avoir avec des territoires français. On a beaucoup à apprendre, mais sachez qu'on a aussi beaucoup à enseigner dans nos façons de faire. Ce sont des territoires ruraux qui se développent, pas qu'ils se sont développés, mais qui se donnent des moyens et qui se développent actuellement. Et en France, on l'a constaté, la valeur du territoire, ça n'a pas de prix. C'est ancré dans eux et ils y tiennent à leur territoire, ils y tiennent à leurs histoires, à leur histoire et ils y tiennent à leur petite place aussi. Alors, je laisse la parole maintenant à mes collègues qui ont fait le voyage pour partager un peu le sentiment qu'ils ont eu de cette mission-là. Je vais commencer par le plus bruyant de tous, Roger. Oh,
ouais.
Qui n'a pas arrêté de parler de tout le voyage. On l'a entendu, c'était distrayant.
Comme je disais tantôt, moi, j'ai retenu l'accueil, de l'accueil des Français. Leur moyen, des petites communautés qui se donnent les moyens mais qui ont beaucoup d'aide de l'État, autant du côté technique que du côté ingénierie. Alors, leur sens des affaires, les petites communautés qui développent leurs produits locaux, leur droit de le faire, les autorisations qui sont moins réglementées. Alors, ils peuvent réaliser des petits projets et vendre leurs produits localement et même dans les marchés. De ce côté-là, je trouve que c'est des choses qui seraient bien intéressantes pour nous autres, mais qui est plus difficile pour nous. J'ai dû parler souvent. L'aide de l'État, j'aimerais ça regarder de quelle manière ça se produit, comment ça se fait que les petites communautés, parce que quand je dis, chez nous, 350 habitants, ici, c'est petit. Là-bas, dans les gros, ça me fait du bien. Alors, de dire que ces petites communautés-là sont capables de se trouver les moyens de se développer et de faire de belles choses. C'est ce que je retiens le plus.
Merci. Marco?
Moi, je suis en discours. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'ardeur qu'ils mettent à l'ouvrage. Les petits lapins de terre qu'ils ont, ici, on cultiverait même pas ça. La voie, c'est des champs de roches. Je passe un journal à moi, c'est des roches, puis ils cultivent ça. Là. Il y avait une pelle mécanique, on la voyait travailler, là, puis à gratter, ça prend de la roche, puis ils cultivent ça. Puis plus loin, tu vois, il y en a un qui emmenait avec des camions de la terre neuve pour mettre son champ pour pouvoir cultiver. Puis ici, on ne fera jamais ça, on ne cultivera pas, mais eux autres, ils tiennent. Puis on a aussi une fermetière, le monsieur, il plante du chanvre sur 2 hectares, puis ils n'ont pas grand terre. Puis... Ah non, j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup avec pas grand-chose. Fait qu'ici, on n'est pas à plaindre trop.
Merci, Simon.
Comme je disais tantôt,
on pense éloigné, nous, de Témiscamingue, mais quand on va, on constate qu'il y a d'autres endroits aussi qui sont éloignés par leur paysage aussi, les terrains accidentés pour s'y rendre. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils transformaient beaucoup leurs matières premières. Ils ont remis en place des anciens bâtiments comme des moulins à vent pour pouvoir moudre des grains pour justement que les agriculteurs aient une agriculture un peu plus épanouie. Puis de constater aussi qu'ils mettent en place des outils pour ces producteurs-là, ces gens-là autour, pour transformer leurs choses, sans que chacun ait ça chez eux, bien qu'il y ait ça un peu corporatif, un peu coopératif ensemble. Fait que ça, c'est sûr que je remarque ça, puis de voir que leur volonté de vouloir rester là, de conserver leur entreprise et justement d'utiliser le fait qu'ils soient éloignés comme image de marque pour pouvoir y rester, puis d'imaginer les entreprises, des gars qui font des excursions d'alpinisme ou autre, mais qui ont transformé, ils font maintenant des modules de jeu pour pouvoir combler, pour qu'ils puissent y vivre pendant toute l'année. Imaginatif dans tout ça pour qu'ils puissent rester là. C'est ça.
Ils ont une confiance dans leur territoire. Chez vous, un mot?
OK. Innovation.
Innovation.
Oui. Innovation dans le sens où on a rencontré des communautés qui, malgré la difficulté, malgré les manques de ressources, ils essaient d'innover, de travailler, d'aller de l'avant sans lâcher. Mais aussi, derrière tout ça, aussi, il y a toute la vision des élus à se projeter sur du long terme. Et en plus de travailler sur la stratégie d'attraction pour maintenir les jeunes dans le milieu qui renforce l'ancrage de la population au niveau du territoire. Donc, en dernier mot, je rajouterais aussi l'audace ou le courage que nous avons à faire des investissements, que ce soit dans la communauté ou appuyer les entreprises à leur donner un ouf de soulagement, en tout cas dans l'export de leurs entreprises, en fait. Donc, c'est ça.
Et on a aussi appris, merci beaucoup, on a aussi appris qu'ils peuvent subventionner les entreprises privées. Mm-hmm. Quand ils nous ont dit ça, on a fait « Ah ouais! » Mais ils prélèvent une taxe sur, ils appellent ça la taxe professionnelle. Il y a une taxe qui existe spécifique aux entreprises privées. Et ce montant de taxe-là est administré dans les communautés de communes pour justement appuyer le secteur privé, subventionner le secteur privé. Alors, ce sont les entreprises qui, par une taxe spéciale, contribue à subventionner le secteur privé, ce que peuvent faire les communautés, ce que nous, on ne fait pas ici. Donc, c'était ce que nous, au niveau des MRC, soyons clairs, là, on ne fait pas. Bref, on apprend, on découvre, mais on a un territoire extraordinairement riche de toutes sortes de ressources. Et ça nous permet de constater à quel point on est bien ici. Donc, c'était le mot de la précepte. Je passe au point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre. Vous avez reçu le procès-verbal. Est-ce que c'est conforme aux discussions? Si oui, je recevrai une proposition pour l'adoption. Vincent, appuyez de Martin. Vincent Gingras, Martin Lefebvre. Ça va pour tout le monde? Alors, période de questions de l'assistance, puisqu'il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de questions. En basant au point 6, suivi des grandes priorités 2022 de la MRC, le projet Onimiki, en fait, je vais laisser la parole à Daniel Dufault, qui est un des deux membres nommés par la MRC au niveau de la société en commandite. Daniel,
nos travaux ont porté sur trois choses. D'abord, essayer d'obtenir de la part d'Hydro-Québec un engagement par rapport à leur accord, par rapport au projet Onimiki, pour avoir un prix, et pour ce qui est question de se connecter au réseau, de se brancher au réseau actuel. Ça, on entend une confirmation écrite de leur part. Ils ont été rencontrés, ils sont ouverts. Deuxième point, on continue les consultations avec les intervenants intéressés. On prévoit d'ailleurs une rencontre fin novembre dans le secteur sud pour Témiscamingue qui peut avoir la miel avec la population pour leur présenter le projet. Et puis, au niveau des consultants, ben, ils continuent leurs travaux. Les plans de devis pour les centrales, les équipements, les digues. Et puis, ils font des inventaires aussi pour documenter c'est quoi les effets de baisser le niveau d'eau, par exemple, dans la rivière Kipawa. Quel impact ça a au niveau biologique? Fait que ça, ces études-là se poursuivent.
Question, commentaire pour Daniel? Alors, merci beaucoup, Daniel. On passe maintenant au point 6.2, les grandes priorités, le logement. Juste vous informer que le comité va se réunir le 16 novembre prochain pour disposer notamment des recommandations du rapport, pour commencer à traiter des recommandations du rapport. Mais entre-temps, il y a quand même des projets sur la table qui sont intéressants. Je vais te laisser la parole, Nico, sur ce qui est en train de se produire dans le Notre-Dame du Nord.
C'est une situation qui est arrivée comme par un pur hasard. Ça s'est passé tellement vite depuis les dernières semaines. C'est sûr que c'est Témiscou qui est pas mal un acteur dans ce beau projet-là qui s'en vient. Témiscou fait affaire avec une entreprise, c'est une OSBL qui s'appelle AI. Font du recrutement à l'international. Puis c'est depuis quelques années qui recrutent à l'extérieur pour Témiscou. Puis ils ont quand même créé un bon lien. L'entreprise-là fait ce recrutement-là pour plein d'entreprises à travers le Québec. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont réalisé au fil du temps, c'est qu'ils vont chercher un paquet de main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre ne reste pas. Parce qu'ils ne sont pas capables de les loger. Puis peu importe, on ne parle pas juste de Témiscamingue, peu importe dans la région où le monde est 2-3 ans. Alors, la plupart de ces travailleurs étrangers-là, ils ont pour un but, c'est oui, ça en est une qualité de vie meilleure, mais aussi subvenir aux besoins de leur famille. Fait que là, ils arrivent dans des régions que les loyers sont rendus à un prix exorbitant. Ils travaillent, puis ils travaillent juste pour le loyer, puis subvenir à leurs propres besoins. Ils sont plus capables d'envoyer des sous à leur famille. Fait qu'ils amènent au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, mais
ils repartent.
Fait que c'est à force de jaser entre eux autres, qui ont dit qu'il faut trouver une solution à ça. Puis ils ont décidé, il y a un entrepreneur qui a décidé embarqué avec cet OSBL-là pour dire on va en bâtir des blocs d'appartements à travers le Québec. Fait qu'avec la SCHL ici et ça, ils ont réussi à monter un projet de 500 portes à travers le Québec de réservés qui ont le droit de bâtir, qui vont se faire financer par la SCHL à du 0,5% d'intérêt sur 50 ans. C'est comme...
Un entrepreneur qui fait ça.
Fait qu'avec des taux de même vont être capables d'avoir, de bâtir quelque chose de décent. Ce ne sont pas des broches, ça va être vraiment quelque chose de bien. On parle des loyers entre 650-700 $, ce n'est pas encore rien de définitif. Puis en plus, les loyers vont être meublés, les ustensiles vont être là. Fait qu'on a le privilège à Notre-Dame-du-Nord d'accueillir les premiers quatre logements de 12, 48, puis il y a la serre aussi. Quelqu'un a beaucoup d'inspiration. C'est un début. Avec eux. Au début, j'étais très. Ça s'est passé tellement vite. Il m'a fallu que je fasse réunir mes conseillers en spécial, puis go, puis je peux prendre des résolutions assez rapidement. T'sais. À un moment donné, j'avais quand même des craintes. On ne les connaît pas vraiment, puis d'où c'est que ça sort. Mais. J'ai envoyé Albert, mes conseillers, à Québec quand ils ont fait la présentation aux médias. Puis c'est la caisse populaire du Québec, pas régionale, la caisse populaire est embarquée dans le projet. La SCHL était là. Tous les gros joueurs majeurs sont là pour ce projet-là. Fait que c'est comme wow.
Fait que 48 nouveaux logements, mais il y a Ville-Marie aussi qui va en avoir. Ville-Marie s'est annoncé, là.
Écoute,
Ah, c'est peut-être plus que moi, là. J'avais eu vent d'informations, mais tu sais, présentement, je ne peux pas en parler parce que je n'avais pas de confirmation. Tu as peut-être eu une confirmation, toi, que je n'ai pas. Mais moi, ça fait deux semaines que je suis parti. Là. Je suis revenu l'après-midi.
La dalle est coulée.
La dalle est coulée. Ah, ben oui, OK. Oui, oui. Non, ben je ne savais pas si tu parlais de quelque chose de plus communautaire ou ça. Là.
Non,
mais c'est sûr que dans le privé, oui, il s'en bâtit. Là. On a vendu des terrains quand même, je vous dirais, depuis un an. De façon, je dirais pas historique, là, je n'ai pas toutes les années de vente, là, mais dans la dernière année, écoute, on a vu de terrain présentement, à peu près. Là, je pense qu'il nous reste 5 terrains à vendre, 5 ou 6. Puis, il y a des logements qui se bâtissent, mais ça se loue assez rapidement. Hein.
Oui.
Puis, on ne parle pas de logements abordables. Puis, quand je dis ça, c'est pas ça. Contre l'entrepreneur ou d'autres entrepreneurs qui veulent aller de l'avant. Le défi, c'est effectivement d'avoir des logements abordables. Parce que c'est plein à Ville-Marie, c'est fou, c'est partout. Hein? Fait qu'au moins, ça lève, malgré le fait qu'avec la pandémie, avec les augmentations de coûts, on vendait des terrains, mais on se disait, peut-être pour moi, dans quelques mois, on va se faire dire qu'ils ne veulent plus bâtir. T'sais. Les coûts sont élevés, mais non, ils vont de l'avant. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Écoute, un 5 logements au printemps, puis on entend parler peut-être de d'autres logements possibles, mais il n'y a rien de confirmé. Là. Puis, fait que c'est ça. Fait que oui, c'est une bonne nouvelle. Toute la série, l'autre bord de l'hôpital, dans le fond, là, entre la partie du ML West, mettons, là, l'autre bord du pont, ces terrains-là sont tout vendus. Puis, présentement, c'est qu'on va travailler dans les mois qui s'en viennent sur le développement de nouvelles rues. Fait que on s'est trouvé quelqu'un qui va chapeauter ce dossier-là, qui est externe à nos employés actuels parce que on est comme tous vous autres, là. On a beau avoir des employés, mais à un moment donné, ils sont tous à côté, là. Fait que là, d'arriver avec un développement, si on voulait libérer un peu Pierre-Rivard, qui travaille aux travaux publics avec son équipe et tout ça. Il fallait avoir une ressource, fait qu'on en a trouvé une, puis on va voir dans les mois qui vont venir, là, la personne commence la semaine prochaine, puis fait qu'il faut ouvrir des nouveaux terrains, tout en sachant que c'est des coûts énormes, puis est-ce que ça va, parce qu'on l'a vécu, là, bien des années, à Ville-Marie, ah, ça bâtissait, mais à un moment donné, comme partout, ça fait quoi, ça bâtit plus, fait que tu vas-tu ouvrir 2-3 rues, puis finalement, tu vends plus de terrain, ça, mais il faut faire quelque chose. Ça, c'est sûr.
Mais on parle vraiment de logement abordable. Là. Pierre, vous autres, vous aviez des enjeux aussi à Témiscamingue sur le logement?
Oui, nous avons un enjeu sur le logement, pas seulement pour le logement abordable, mais aussi pour du logement tout court. Logement tout court.
Ouais.
Parce qu'il n'y en a pas présentement. Même que la ville, à sa réunion extraordinaire, a décidé de l'aider dans la situation.
C'est bon.
Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun logement. On a des employés qui vont rentrer, là, puis ils disent où qu'on va rester.
Ouais, c'est
là,
ça.
Du coup, tu portes la porte, tu as toute la place, puis temporairement. C'est difficile. C'est le problème, mais un rapport de province, mais on en a un gros chez nous.
On a un gros.
Juste pour enchérir, peut-être, qu'un bloc appartement, ça ne sera pas. Puis qu'est-ce que j'ai aimé vraiment de leur vision là, de cette compagnie-là? Ce ne sont pas des ghettos. Là. Si on ne parle pas qu'on va mettre. Une communauté dans un bloc au complet, puis une autre communauté dans un bloc au complet, c'est loin d'être là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment un mix de tout le monde, puis même que le Québécois pur laine va en bénéficier aussi de ce logement-là, là, pas juste les
travailleurs
étrangers. Okay. C'est bien, c'est dans leur...
Dans leur vision.
Dans leur, ben, pas juste dans leur vision, ça va être ça. Là.
OK.
Dans leur
Est-ce que, pour le ministre, ça dirait mieux, est-ce que les programmes vont changer? Parce qu'on sait que pour tirer du logement abordable à Montréal, le pourcentage pour un entrepreneur est différent qu'au Témiscamingue.
Le pourcentage reste le même, le coût pour l'entrepreneur au Témiscamingue est plus élevé.
Même s'il fait partie du programme, il n'est pas capable d'arriver avec un prix abordable.
Non, c'est vrai.
On va faire changer les choses.
Qu'est-ce qui va être bien gros dans ce projet-là de 500 porte, c'est que ça va être du pareil. Le bloc appartement à Notre-Dame-du-Nord va être identique à Gaspé. qui va être identique à Québec. Ça va être du copier-coller à grandeur. Puis c'est un entrepreneur qui prend en charge tout. Ça va tout être du préfab.
Fait que ça va être, on va être capable d'établir les termes du coup.
Non, du tout. C'est pas comme des maisons usinées. On va être vraiment des
murs montés.
Des murs montés.
Ah, OK.
Parce que vous savez que la problématique est partout au Témiscamingue où il y a des donneurs d'emploi.
Ben
ouais. Au Nord, Témis, Ville-Marie, Béarn, c'est criant, là. Fait que on n'a pas, là. On veut d'acheter des maisons pour enlever notre monde.
Puis, ça fait que le... Oui, Martin?
Ben, puis la chose que je dirais, c'est qu'on manque de logement. Puis c'est que la semaine... Ben, avant que je parte là, à l'extérieur, c'est que travailleur de milieu qui demeure à Laurinville, là, je vous le dis le nom, qui est venu me rencontrer parce que quand on manque de logement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a du monde qui sont dans la rue, au Témis. C'est pas juste à Ville-Marie. Puis il me parlait de facilement 20 à 25 personnes qui sont sans logement, qui couchent dans leur auto quand ils en ont un. Il dit là, je te parle pas de 20 sur 25. Qui dit, Martin, on a un problème majeur qui arrive parce qu'en plus, c'est l'hiver qui s'en vient. J'en ai parlé, j'ai envoyé un message à Lynn Hitler en disant, ben on a une rencontre pour le logement abordable, mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Parce que, tu sais, on ne voit pas tout le temps ça, là, dans nos rues, là. Mais ces gens-là, d'un, c'est des gens éloignés de services souvent. Ils couchent dans des maisons abandonnées. Écoute, il m'en a nommé pendant une heure et demie. À un moment donné, j'ai dit, écoute, je te crois, là. Tu as fait me compter d'exemple à l'effet que je te crois pas, c'est sûr. Fait que c'est ça aussi l'incidence que ça a quand on manque de logement. C'est de plus en plus cher pour la classe moyenne et moins moyenne et plus faible. Mais les gens éloignés du marché du travail, qui sont sans emploi, qui n'ont pas nécessairement d'aide sociale parce qu'ils n'ont pas de réseau. Ce qu'on voyait avant, là, à Val-d'Or, là, puis à Rouen, ben, c'est rendu chez lui. Ça fait que ça aussi, il faut réfléchir un petit peu par rapport à ça.
On le vient d'avoir
aussi. Hein?
On le vit aussi.
Ben non, c'est clair. Ça, je dis, c'est pas juste la vie de Marie. Il venait pas me faire le portrait de situation de chez nous. Il me disait, c'est pas cette piste.
Le logement devient un enjeu majeur partout. Il y a des villes, il y a des municipalités au Québec qui ont réglementé, qui ont interdit les Airbnb, la revente de résidences pour les Airbnb. C'est dans des lieux touristiques, un peu touristiques. Mais ça devient un enjeu, les doubles, la propriété pour location, court terme, ouais, devient un enjeu vraiment important. Et bref, la première rencontre, c'est le 16 novembre.
Pour parler des Airbnb, parce qu'on est sur ce sujet, une petite parenthèse, c'est que s'il y a des municipalités qui veulent changer leur règlement pour les Airbnb, vous avez jusqu'au 31 mars ou au mois d'avril, là, pour modifier tout ce que vous ne voulez pas avoir ou à vouloir sur le terrain. Parce qu'après ça, trop tard. Vous avez des modifications à faire. Tu dis, moi, tel secteur, on n'en veut pas. Puis tel secteur, on en veut. Faites votre travail tout ça.
Peut-être qu'on pourra avoir une chronique dans l'infolette aussi là-dessus pour justement rappeler la portée de la législation. Ça vous irait? Alors, on passe donc au point 7, le suivi des enjeux ponctuels. Ben, les soins de santé, vous mentionnez que le comité santé citoyen nous a... Merci Véronique. Tu peux débarrer la porte. Le comité de santé citoyen a fait une demande à la MRC. Dans le fond, il y a une situation sur le logement pour les personnes aînées, le logement adapté pour les personnes aînées et le travail qui doit être fait d'évaluer tous les besoins qui sont associés au logement adapté, les CHSLD, les RPA, etc. Et ils se sont adressés à la MRC en disant « est-ce que vous avez une ressource qui pourrait nous aider à faire ce travail-là? » Nous, on avait un peu réfléchi au fait que ça va nous prendre quelqu'un dans les plans d'action, dans la réflexion qu'on fait sur toute la question du logement. On réfléchissait à avoir une personne qui pourrait nous accompagner pour justement mettre en œuvre les recommandations qu'on a eues sur le rapport qu'on a fait faire, puis les mettre en œuvre aussi les orientations qu'on va donner au niveau du comité, parce que ça devient un enjeu majeur, le logement. Et on a abordé le point au niveau du comité administratif pour dire, ben, est-ce qu'on est favorable à répondre à la demande du comité santé citoyen dans un premier temps pour traiter du logement des personnes aînées, mais surtout pour prendre les devants puis aller vers une ressource qui va nous accompagner au niveau du logement, au niveau de la MRC et partout sur le territoire. Alors, la demande émane du comité santé citoyen, mais elle pourrait avoir des répercussions plus grandes. Le comité administratif a été interpellé pour voir si c'était quelque chose d'intéressant, et le comité administratif fait une recommandation au conseil d'aller de l'avant pour accompagner une ressource qui va vraiment suivre nos projets en matière de logement sur le territoire, en commençant dans un premier temps par un accompagnement au niveau du comité santé citoyen sur les ressources en logement pour les personnes aînées, CHSLD, RPA et compagnie, mais qui va également aller plus loin dans l'évolution du mandat pour accompagner la MRC dans le travail au niveau de notre nous-mêmes, nos travaux qu'on va entreprendre sur le logement. C'est un des grands enjeux auxquels on est confronté. Alors, vous avez la résolution au point 7.1.1 dans votre plateforme pour recommander le recrutement pour l'embauche d'une ressource qui serait chargée de projet pour appuyer les travaux du comité santé citoyen. Et cette ressource-là pourrait être soutenue par le Fonds Région Ruralité à l'intérieur du cadre du poste des projets spéciaux. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus?
Si je te comprends bien, cette ressource, ça va aussi nous accompagner sur le comité de logement.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
On fait la proposition.
Luc propose. Appuyez de Mme Cardinal. Est-ce que quelqu'un est contre? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et pour le point 7.2, le complexe des eaux profondes, en l'absence de notre représentant, Daniel Barrette, on va remettre le point, à moins que du côté d'Ile-Marie, il y aurait des informations récentes.
Vraiment,
non? Alors, on va remettre le point la prochaine rencontre, on laissera Daniel le soin
de... La seule chose que je pourrais dire, on a une rencontre la semaine prochaine là, avec le chargé de projet Éric Hervieux, là, avec Pierre Rivard, dans le fond, là, c'est toute la question du terrain. Il y avait des questionnements là, par rapport à ça. Là. Fait que, mais non, on n'a pas plus de prix ou de comme vous autres. On est en attente de ça. J'espère qu'on va avoir un prix qui va sortir là, bientôt. Là. Fait que j'appelle pas Daniel non plus là-dessus. Là.
On laisse le comité faire son travail.
Ouais, c'est ça.
Le complexe des eaux profondes.